Bonjour à toutes et à tous, il est midi 15, vous écoutez Radio BLV, bienvenue dans la locale, le coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire. Vous êtes avec Émilie et c'est Kat à la technique. Bonjour Kat.
Salut, salut. Alors Émilie, qu'est-ce que tu nous annonces au sommaire de cette locale du jeudi 15 décembre ?
Eh bien, nous débuterons avec Philippe Labadens, vice-président de l'agglo Valence Roman en charge de la transition énergétique, qui nous parlera du plan de sobriété énergétique mis en place par l'agglo. Et puis nous recevrons Joseph Kerdo, président de Valence Triathlon, qui nous parlera du trail de Noël, demain départ à 19h30 du Champ de Mars, et comme d'habitude, des infos et des brefs locales.
Alors Philippe Labadens, qui est vice-président de l'agglo Valence Roman, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur Labadens.
Bonjour.
On vous reçoit parce que l'agglo a conçu un plan de sobriété énergétique. Alors sobriété, c'est le mot du moment, pour ne pas dire économie. C'est vrai que c'est un peu un mot moderne. Alors en quoi consiste ce plan de sobriété énergétique ? De quoi on parle ?
Ben, on parle de cet effet qui est imposé par une augmentation très très importante du coût de l'électricité. Donc les particuliers ne s'en rendront pas forcément compte parce qu'ils sont protégés par un bouclier qui limitera l'augmentation à 15% sur leur facture à eux. Mais au niveau de l'agglomération et au niveau des grandes collectivités, l'augmentation elle est de l'ordre de 500%. C'est-à-dire pour donner quelque chose d'un peu concret, la dépense électricité de l'agglo, Valence Roman Agglo, était de l'ordre, de l'ordre, c'est très à la louche, de 3 500 000 euros en 2021 et elle passerait à 17 millions d'euros en 2023.
Alors, ça fait beaucoup de millions. Ça, c'est évident qu'on s'est un petit peu dépassé quand on est un particulier par
voilà,
ces sommes.
Bien sûr.
Bon, en même temps, 15% pour un particulier qui compte son argent.
Et c'est déjà beaucoup.
Voilà, c'est déjà beaucoup. Mais on voit bien que pour les collectivités et les entreprises, en fait, tous les professionnels, les associations comme Radio BLV aussi, les prix ne sont pas protégés. Il n'y a pas ce fameux bouclier tarifaire. Et ce qui fait qu'on se prend les augmentations de plein fouet. D'où l'idée de faire des économies sur l'agglo. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que vous rappeliez quelle est la compétence de l'agglo, parce qu'on n'est pas tous super avertis avec les couches administratives. En général, on connaît la région, on connaît le département, on connaît les mairies. Et les agglos, on sait que c'est des regroupements de communes, mais quel est son champ de compétences ?
Oui, donc l'agglo regroupe un certain nombre de compétences partagées. Donc l'éclairage public en particulier, c'est un point très important puisque l'éclairage public représente quand même une dépense très très importante. Bah, justement, c'est 17 millions, c'est principalement principalement l'éclairage public.
Vous voulez dire que...
Excusez-moi, j'ai fait une erreur, c'est de l'ordre de 10 millions d'euros sur les 17 millions que l'on aurait à payer uniquement pour l'éclairage public. Donc on commence à faire un travail très important au niveau de l'éclairage public et à partir de là, on engage des mesures donc de restriction d'éclairage. Il faut savoir qu'on a presque 40 000 points lumineux sur le territoire de l'agglo. Donc on en a 35 qui sont aujourd'hui équipés en LED, ce qui est quand même beaucoup moins énergivore. Et donc on va engager des coupures de l'ordre de 70% sur les aires urbaines, 90% sur les communes de plus de 2000 habitants et coupures totales pour les communes de moins de 2000 habitants.
Alors
je continue sur les compétences. Effectivement, les compétences, ben, ce sont les équipements sportifs. On va avoir les patinoires et les piscines en particulier. Ce sont les équipements culturels, les médiathèques en particulier. Ce sont les bâtiments, ce sont aussi les crèches. Les crèches, la petite enfance est une compétence de l'agglo. Et on a tous les bâtiments publics de l'agglo. Oui, voilà. Ça c'est au niveau de la répartition principale des compétences.
Est-ce que ça veut dire concrètement que c'est l'agglo qui décide d'allumer ou d'éteindre la lumière dans telle rue, de Valence par exemple, ou de Bourg-les-Valence, et pas la mairie? C'est ça?
Ah non, c'est pas ça. C'est un travail en concertation. Nous nous sommes retrouvés avec les équipes des équipes des villes. Il n'y a pas de décision autoritaire. Hein. On se met tous d'accord sur le programme parce que l'agglo, elle est quand même gérée par les élus des communes.
D'ailleurs, vous-même, vous êtes élu à Romans, je crois.
Bien sûr, je suis adjoint à la ville de Romans. Donc, c'est vraiment un travail de concertation et ce sont les élus communaux qui font l'agglo.
D'accord. Alors, dans ces mesures où il y a notamment, donc, vous le rappeliez, l'éclairage public, c'est notamment sur l'éclairage que porte ce plan de sobriété, il y a une distinction entre l'éclairage public des 56 zones d'activité, ai-je lu, et l'éclairage public des voiries. Alors, l'éclairage public des voiries, on sait tout ce que c'est les rues, les routes, les boulevards. Les zones d'activité, qu'est-ce que c'est ?
Les zones industrielles, par exemple.
D'accord. Donc, ça, c'est aussi la compétence de l'agglo, les zones industrielles.
Tout à fait.
OK. Et là, vous avez décidé de réduire l'éclairage qui était précédemment de 22h à 5h du matin, de 20h30 à 7h. Non, c'est l'inverse. Non, c'est ça.
Voilà.
C'est l'élargissement de l'extinction. Il ne faut pas que je le confonde avec l'élargissement de l'éclairage. Donc, ça veut dire que là où avant, on avait de la lumière de 5h du matin à 22h, on n'en aura plus que de 7h du matin à 20h30 dans ces fameuses zones industrielles.
Voilà.
OK.
Il peut y avoir des mesures d'exception lorsqu'il y a des entreprises avec des entrées de poste, du travail posté. Mais il peut y avoir ponctuellement des particularités, quoi. Hein.
Oui, donc c'est très fin, finalement, comme réglage. Et si, à l'expérience, parce que tout ça va être mis en place progressivement, entre, il y a certains territoires où c'est déjà fait, mais sur la plupart des territoires de l'agglo, ça va s'étaler jusqu'au 31 janvier. Si, à l'expérience, on se rend compte que dans son entreprise située sur telle zone industrielle, ça pose un problème, je pense notamment au sentiment de sécurité ou à la sécurité pour les personnes qui rentrent et qui sortent de l'entreprise et vont sur les parkings. Qui est-ce qu'on contacte pour faire part d'une nécessité de modification?
C'est bien entendu les services de l'agglomération qui collectent.
Mais quel service?
Voilà.
C'était ça ma question. C'est quel service?
Un service éclairage public.
D'accord.
Voilà.
Il y a un service dédié à l'éclairage public.
Absolument.
Qui se situe sur l'agglomération. OK. Vous avez ensuite parlé des voiries. Vous avez évoqué brièvement le remplacement des ampoules par des LED. Alors, nous aussi, on doit faire ça chez nous, finalement.
Ah, mais c'est évident. C'est évident. Là, aujourd'hui, on s'exprime au niveau des économies de l'agglomération, mais je pense que tous les particuliers seront sensibles. Et justement, il est mis en place par l'ADEME, qui est un service de l'État, et RTE, Réseau de transport d'énergie, d'électricité, il a mis en place un programme EcoWatt, avec une charte qui a été d'ailleurs signée par l'agglo, et qui permet donc, d'une part, de mettre en place des réductions de consommation, d'inciter aux réductions, à la mise en place et à éduquer aux éco-gestes. Et ça touche bien entendu le personnel des entreprises, mais ça concerne également les particuliers, puisque cette charte EcoWatt, enfin, pas la charte, le système EcoWatt, c'est un peu la météo
Oui, on en a beaucoup entendu parler, c'est rouge, voilà. C'est vert ou c'est orange. Quand c'est vert, voilà. Tout va bien. Et sinon, il faut essayer de diminuer la température, de ne pas cuisiner de gratin au four trop longtemps, etc. etc. Mais évidemment, voilà. Ça ne concerne pas la collectivité. Et si je reviens au LED, je vois que 35% du patrimoine était équipé au moment du patrimoine de l'agglo était équipé au moment où le plan était déterminé. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, les économies d'énergie sur l'éclairage, c'était pas un souci majeur.
Non. Enfin, si c'était un souci, disons majeur.
Mais pas majeur. Voilà, on avait un plan, mais plus tranquille. Et là, vous accélérez, j'ai l'impression.
Disons que là, on met une majuscule au mot majeur. Quoi.
D'accord. Et le LED, l'intérêt du LED, c'est quoi? C'est qu'on peut moduler la lumière, puisqu'il semblerait qu'on peut réduire l'éclairage avec les LED, ce qu'on ne peut pas faire avec des ampoules normales, c'est ça?
Tout à fait. On peut très bien diminuer de 50%. D'ailleurs, on le fait déjà dans certains endroits. Et il s'avère que les gens, d'ailleurs, ne s'en sont pas aperçus, parce qu'on n'a pas besoin d'une telle intensité lumineuse. Disons qu'on doit réglementairement, aux heures où il y a du trafic, de la circulation et du monde dans les rues, on doit avoir un certain taux d'éclairage. Et quand il y a moins de monde, cet éclairage peut être diminué sans que ça amène de risque par rapport à la sécurité. Et ça se fait déjà. Voilà.
Alors justement, est-ce qu'on peut en venir aux horaires d'extinction des aires urbaines et non urbaines, puisque vous avez distingué dans ces deux cas? Je vois que sur les aires urbaines, c'est-à-dire essentiellement Valence et Romainbourg de Péage, parce que ça ne concerne pas Porte-les-Valences et Bourg-les-Valences qui ont voulu un horaire différent. Voilà. Sur Valence-Romain-Bourg-de-Péage, ce sera en hiver, c'est-à-dire maintenant, le vendredi et samedi soir, une extinction de minuit à 5h du matin. Et en été, on passera, pour ce qui est du week-end, à une extinction entre 1h et 5h du matin. Et je vous avoue qu'il m'arrive de sortir dans des lieux de fête qu'on appelle les bars, et qu'il me semblait que les bars fermaient à 2h du matin. Alors pourquoi vous avez choisi 1h?
Parce que c'est quand même pas, il n'y a pas énormément de monde qui sort des bars, et c'est pas parce qu'il n'y a pas de lumière qu'on ne peut pas rentrer chez soi.
D'accord. Ok.
Bon, je sais pas, c'est une réponse, je ne sais pas si c'est la bonne, mais bon...
Alors, c'est vrai que ça m'a donné envie d'interviewer les services de l'éclairage public, parce que très honnêtement, quand on vit à proximité des bars, on sait bien qu'il y a pas mal de gens qui sortent à 2h du matin. Et c'était pour ça que je vous posais la question de savoir à qui s'adresser pour réajuster. Parce que comme toujours, un plan, c'est un projet, on le met en œuvre et puis après, on s'aperçoit des endroits où ça ne convient pas. C'était l'origine de ma question au départ, mais vous y avez répondu en indiquant qu'il fallait s'adresser aux service de l'éclairage public. Et alors, Porte-les-Valences.
Il est évident qu'à l'usage, en fonction des constats qui seront faits, il pourrait y avoir des ajustements.
Voilà, hein, tout à fait.
Au départ, il fallait bien définir quelque chose.
Exactement.
Et c'est vrai qu'il était urgent de poser des bornes.
Alors, Porte-les-Valences, c'est 5h30 et Bourg-les-Valences, c'est 6h. Est-ce que vous étiez présent pendant les débats qui ont fait que ces deux communes ont décidé qu'il fallait une demi-heure ou une heure de décalage par rapport au centre urbain?
Voilà, d'abord, je voudrais dire que ça répond à une question que vous m'avez posée tout à l'heure, à voir que ce n'est pas l'agglo qui décide, mais que les villes gardent une certaine liberté. C'est les villes qui décident et il y a deux communes qui ont choisi... de ne pas s'aligner sur le même horaire. Bon, ça montre que c'est pas parce qu'on est une agglo que c'est pas l'agglo qui décide formellement pour tout. Quoi.
D'accord, donc c'est une compétence, mais pas vraiment une compétence, puisqu'on était parti sur l'idée de compétence. Donc c'est plutôt un lieu de discussion, ce sujet.
C'est quand même une compétence, parce que toute la gestion technique et les factures, tout ça, ça revient complètement à l'agglo. Quoi, hein.
Et j'ai cru comprendre que le 16 novembre, vous aviez eu, mais ce n'était pas dans le document qu'on a reçu à la radio, un conseil communautaire pour décider du sort des équipements sportifs et culturels. Il s'agit par là, par exemple, des piscines, des médiathèques, la patinoire. Est-ce que vous avez en tête les mesures qui ont été prises ou peut-être pas encore ?
Bon, au niveau des patinoires et piscines, donc on a élargi les périodes de fermeture. Alors, si je ne vais pas vous détailler là, parce que ça finirait par être très long, parce qu'il y a plusieurs établissements.
Oui, on ira voir sur les sites. Voilà.
Au niveau de la piscine, de la patinoire, par exemple, on a prévu de diminuer l'épaisseur de glace dans des conditions qui risquent pas de dégrader la qualité d'utilisation. Dans les piscines, on va diminuer un petit peu les températures d'eau, de pas beaucoup, mais un petit peu, ça représente déjà pas mal d'énergie. On va supprimer le chauffage du bassin d'été de Bourg-les-Valences, par exemple. Voilà, et puis dans les établissements piscines et patinoires également, tous les éclairages qui ne sont pas en LED, donc on va travailler à les modifier.
À les remplacer.
Maintenant, au niveau des équipements culturels, que sont par exemple les médiathèques, par exemple, on va élargir les périodes de fermeture également.
D'accord, donc ça veut dire que par rapport à nos habitudes, il faut vraiment aller consulter les sites chaque équipement pour vérifier que les horaires n'ont pas été modifiés.
Voilà, parce que la fermeture peut se faire certains jours une demi-heure plus tôt, et puis dans des périodes de congé, dans des périodes d'été, là où il y a des périodes où la patinoire sera fermée, il y a des périodes où les piscines seront fermées, il y a des périodes où les médiathèques seront fermées. Hein. Bon, effectivement, il faudra toujours aller vérifier.
Avant d'y aller.
Avant d'y aller.
Oui. Alors, une dernière question. J'ai vu que vous étiez vice-président chargé de la transition énergétique et qui encore récemment, je crois que c'est dans un article de Peuple Libre que j'ai lu ça, vous étiez chargé de la transition écologique. Alors, c'est une erreur ou il n'y a plus de préoccupation pour la transition écologique à l'agglo?
Effectivement, le terme, c'est plutôt transition énergétique. Et la transition énergétique passe forcément par une dimension écologique. Alors, certains parlent de transition écologique. Moi, pour moi, je ne vois pas bien le sens parce que on met de l'écologie dans la transition énergétique. Quoi.
D'accord.
Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Hein.
Ok, eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous un peu au débeauté, si j'ose dire. Merci d'avoir pris le temps de venir en parler aux habitants de l'agglo, parce qu'effectivement, ça nous concerne tous sur un territoire assez large et qui est le territoire d'écoute de la radio. Donc, merci beaucoup, bonne journée et avec
merci
un pull alors.
Et bonne journée à vous aussi. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Les visites de pays d'art et d'histoire de ce week-end qui commencent ce soir, enfin, c'est un week-end qui débute un peu tôt, à 18h30 avec une conférence par l'archéologue responsable scientifique des fouilles menées sur l'îlot du Mouton à Romans. Bah justement, on était avec un élu à Romans. Mais il y a aussi samedi à 17h30 la visite du centre historique de Valence à la lumière de Lampion de Noël. Et puis dimanche, retour à Romans pour une visite express de 30 minutes de la tour Jacquemart, qu'on ne présente plus, bien entendu, tout le monde connaît. Ou bien, plus original, une visite de l'église de Malissard pendant le marché de Noël.
Et le club de la presse Drôme Ardèche et la Maison de l'Europe vous invitent à une conférence. Alors, c'est sur l'Europe et l'énergie, les enjeux liés au conflit en Ukraine. Alors, c'est demain à 19h à l'hôtel Ibis à Valence Sud. Diffusion en direct sur Zoom. Alors, c'est inscription obligatoire en présentiel ou par Zoom. À l'adresse suivante, clubpresse2607@aol.fro.
Au Clévos à Étoile du 18 au 30 novembre, on vous rappelle qu'il y a une exposition sur le feu, les êtres humains et le feu, à partir de 9 ans, qui est hyper intéressante.
Damsel aura la joie de jouer son spectacle vocal L'Emporte-Voix. C'est ce samedi à 20h à la galerie Espace Liberté à Cré. Alors Damsel, c'est quoi? C'est la rencontre de femmes, de voix de vie, des chants populaires et traditionnels à des interprétations d'artistes contemporains. Elles s'inventent des histoires pour nous faire voyager dans leur univers sonore, fleuri et éclectique. C'est ce samedi à 20h à Cré.
Yeah.
Joseph Cardo, tu es le président de Valence Triathlon, partenaire sportif et support technique de la ville de Valence pour la 5e édition du Trail Nocturne de Noël qui aura lieu demain, donc le départ Champ de Mars à 19h30. Joseph Cardo, bonjour et bienvenue sur Radio Belvé.
Bonjour, bonjour aux auditeurs de Radio Belvé.
Alors première question que je me pose, c'est est-ce que tu cours toi-même ?
Moi, je suis un coureur, mais je ne vais pas courir demain, ça c'est sûr.
Ah non, tu es dans l'organisation. Exactement. Depuis hier soir, je crois, c'est ce que tu disais, vous avez mis en place.
Oui, depuis hier soir sur la partie un petit peu, je dirais, sur le terrain, mais ça fait très longtemps qu'on prépare cette organisation.
Oui, j'imagine. En plus, c'est la 5e édition, donc ça veut dire que c'est une affaire qui marche, qui court même, puisque en 5 ans, on a le temps de réajuster des choses et puis ça veut dire que les coureurs sont de plus en plus présents. Est-ce que c'est le même circuit que les années précédentes ?
Oui, alors c'est la 5e édition. Il y a eu une interruption l'année Covid, hein, l'année 2020. Nous avons repris en 2021, l'année dernière, donc ce trail nocturne en changeant de lieu, hein, parce qu'initialement on partait proche de la Grande Roue de Valence. Et depuis l'année dernière et cette année encore, on va partir du Champ de Mars. Donc on est vraiment au cœur de la ville, au cœur du village de Noël.
Parce que oui, je voyais, c'est donc le parcours, c'est le Champ de Mars. Après, vous partez vers les Trinitaires, le parc Jouvet.
C'est ça. Alors ça, c'est plutôt la fin du parcours. Donc le départ est au Champ de Mars. En fait, c'est une belle visite de la ville de Valence, hein, parce qu'on va prendre tous les boulevards de Valence. Ensuite, on va aller dans le centre-ville, le cœur historique de Valence. Toute la partie basse ville avec toutes les marches. Hein. Donc il y a pas mal de marches cette année, un peu plus que l'année dernière. Il va falloir en tenir compte pour les coureurs, hein. Donc des marches en descendant, mais aussi des marches en montant. Donc dans toute la basse ville de Valence. Et c'est ensuite qu'on va traverser pour aller dans le parc Jouvet. Donc là, on sera dans l'obscurité totale. Et le deuxième parc de Valence, le parc des Trinitaires, hein, donc qui est un parc un peu plus naturel. Là, on sera dans l'obscurité totale, même s'il y aura quelques zones éclairées pour la sécurité. Mais nous recommandons fortement la frontale, notamment par rapport à la traversée de ces zones.
Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Quel équipement il faut avoir demain pour participer au trail ?
Des baskets.
Des baskets.
Ouais, non, ouais, des chaussures pour courir. Après, il devrait faire beau, même c'est sûr, demain il pleut pas, voilà. En tout cas on peut pas dire qu'il va faire beau, mais il ne pleuvra pas, donc c'est la bonne nouvelle, hein, parce que toute la pluie va tomber aujourd'hui, ça c'est certain, donc c'est bien, il pleut aujourd'hui, je suis bien content, et demain nous devrions avoir une belle journée en tout cas pour courir. L'équipement qu'il faut, ben, en dehors de cet équipement frontal qui est nécessaire par l'obscurité, il faut avoir plusieurs couches, hein. C'est toujours ça qui est recommandé lorsqu'on court en hiver. Ne pas trop s'habiller quand même, hein. Il ne faut pas courir avec une doudoune, hein. C'est à éviter. Mais d'avoir des vêtements qui sont plutôt respirants et en multicouche, voilà.
Et surtout donc cette frontale qui va nous permettre d'avoir une bonne visibilité et d'être aussi vu par les autres dans ces endroits où tu disais que ça allait être,
ouais,
un peu plus délicat.
Oui, pour le spectacle aussi, ça va être sympa parce que ça va faire des lumières, notamment au niveau du parc. Je ne sais pas si on aura l'autorisation d'avoir un drone pour voir ça de hauteur, mais ça va faire un filament lumineux. Donc,
il faudrait des frontales de couleur, ça ferait comme des lampions, ça serait super beau.
Oui, bah oui. C'est une idée.
Kat, tu veux y aller courir ? Tu peux avoir ta petite frontale rose.
Je trouve génial l'organisation de ce que tu disais dans la ville et le fait qu'on puisse courir dans la ville. C'est un côté convivial et magique.
Et donc les rues sont bloquées à certains endroits au niveau des, enfin les automobilistes peuvent circuler ou alors non, c'est on bloque pour le trail
sur
2 heures de créneau, 3 heures, je ne sais pas.
Oui, non, on évite de bloquer la ville, justement. Hein, c'était un des objectifs. Hein. Il y a, allez, on va dire 10 minutes maximum, juste le temps de démarrer. On va couper un boulevard, mais le temps entre le premier et le dernier coureur, on ouvre tout de suite le boulevard derrière. Et ensuite, on est vraiment dans des rues plutôt piétonnes. Donc là, il n'y a pas de blocage de circulation. Hein. On a évité justement de perturber, de pénaliser les usagers de la ville pour que ça soit quelque chose qui soit bien accepté aussi, hein, par les habitants, hein, pas venir. On entend souvent des plaintes, hein, des habitants quand on bloque excessivement des rues avec des déviations. Là, on a fait ça à minima. Je dis pas qu'on va gêner personne, parce que forcément il y a certains parkings qui ne vont pas pouvoir être autorisés durant la course, mais en tout cas on a fait le travail d'informer tous les riverains. Les riverains sont au courant depuis bien longtemps, et les zones où on ne pourra pas se garer sur ces horaires-là sont déjà affichées.
Et mais ça va, parce que le français n'est pas très râleur en général, donc ça devrait bien se passer. Et quelles sont ces zones, ces parkings inaccessibles?
Oh, c'est très très localisé.
Champ de Mars.
Ah ben, le Champ de Mars, si on peut se garer, parce que c'est tout le souterrain. Voilà, okay. Ce parking-là, il reste accessible pour tout le monde. Voilà, un des objectifs aussi de la course, hein, c'était de le faire à un horaire qui permette aux gens de rester en ville après et de profiter, puisque on sera sur un week-end, des restaurants et des bars dans la soirée après la course.
Ah ouais, bah après, on est tout transpirant. Je ne sais pas si j'ai très envie d'aller dans un bar tout de suite, mais, mais l'idée est vraiment sympa. Moi, je pense que j'irai d'ailleurs plus. Je vous attendrai au ravitaillement, parce que j'ai vu qu'il n'y a pas de ravitaillement, mais si quand même. À la fin de la course, on a un moment convivial autour peut-être un vin chaud.
Complètement, oui. Mais ça, c'est effectivement à l'arrivée. Il n'y a pas de ravitaillement sur le parcours, puisque la distance est assez courte. Hein. Les premiers vont mettre moins de 30 minutes. Même si on passe un petit peu de temps, on ne devrait pas tomber en déshydratation. Hein. Et donc, et le ravitaillement, cette année, en plus du fait qu'on n'ait pas ces contraintes Covid, ça sera un buffet qui sera garni et sur lequel tous les coureurs pourront venir se restaurer après la course, bien sûr.
Oui, après la course. Évidemment, c'est la carotte. Il faut d'abord transpirer un petit peu pour mériter le ravitaillement. Comment je peux faire si je ne suis pas encore inscrite? D'ailleurs, je ne suis pas encore inscrite et que je veux me rendre à la course.
C'est très simple, hein. Il faut aller sur le site du Valence Triathlon, hein, donc, sur lequel en fait il y a une page qui permet d'accéder à l'inscription qui se fait uniquement en ligne. Nous ne faisons plus d'inscription papier, hein. On parlait tout à l'heure de transition écologique, ça en fait partie. Hein. Tout se fait en ligne et il y a des remises de dossards. Donc cet après-midi dans un magasin partenaire, Air Running à Valence, avenue Victor Hugo. Et puis demain, toute la journée à partir de 10h, où on remettra uniquement les dossards des personnes qui sont inscrites en ligne.
Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire la jauge un peu, combien de personnes se sont inscrites déjà? Combien de personnes sont attendues?
Alors, on est déjà plus de 750. Je pense qu'on va allègrement passer les 800-850 là en début d'après-midi. Et le maximum, hein, donc, puisqu'on parle de jauge, c'est 1200. Hein, donc l'autorisation qu'on a préfectorale, c'est jusqu'à 1200 personnes. Donc il y a encore un petit peu de place pour s'inscrire.
Mais il faut vraiment s'inscrire pour récupérer ce dossard et que vous puissiez justement savoir combien de personnes sont présentes. Je ne peux pas arriver demain comme ça, comme un cheveu sur la soupe, avec mes baskets, je ne serais pas...
Et ta frontale.
Et ma frontale. On ne m'acceptera pas.
Non, il faut une inscription en ligne, ouais, tout à fait.
Et si je suis un mineur dont les parents ne sont pas très sportifs, n'ont pas envie de se joindre à la course, est-ce que je peux quand même courir?
Alors, la course est ouverte aux cadets, donc c'est l'âge de 16 ans, voilà. En dessous de 16 ans, non, parce qu'en fait, c'est la réglementation qui est interdite par rapport à la distance de courir pour ces jeunes catégories. Voilà, c'est une règle, on est sous l'égide de la Fédération française d'athlétisme, hein, donc on applique ce règlement-là. Donc les plus jeunes, non, ne peuvent pas participer à cette course. Mais à partir de 16 ans, oui.
16 ans, très bien. Et si j'ai envie de courir avec mon chien ou mon chat, est-ce que je peux le faire?
Non, malheureusement, non.
Non, une question de sécurité peut-être.
Exactement,
aussi.
Exactement. Il va y avoir beaucoup de monde sur le départ. Et donc, on évitera effectivement les...
Alors, justement, moi, je voulais te demander où est le départ, si on veut regarder le départ.
Champ de Mars.
Champ de Mars.
Champ de Mars, le Valence.
Ouais. Et il y a un endroit, est-ce que ça passe devant un bar? Ça peut être pas mal d'être assis en terrasse en buvant un vin chaud ou un thé.
Je vais pas citer tous les bars, mais il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, super. Donc on peut s'installer et encourager les coureurs, les coureuses.
Exactement.
Super.
Et est-ce que je voulais savoir, j'ai vu qu'il y avait des récompenses pour les premiers participants, les trois premiers peut-être, non les...
Pas que. Ouais, c'est ce qu'on appelle le classement scratch, effectivement. Donc les trois premiers féminines. Après les premiers par catégorie aussi, hein, donc jusqu'au master 10. Hein, donc ça va très très loin. Il y a également un challenge entreprise, hein, il faut le savoir. L'entreprise qui sera la plus représentée sera récompensée. Il y a un challenge également en déguisement. Il y a un petit jury qui va déterminer quel est le déguisement qui méritera une récompense. Et également un challenge de l'association qui sera la plus représentée. Voilà.
Ah, mais c'est dommage qu'on n'ait pas su, parce que nous, on a Pierrick qui fait l'émission Le Lieu Dit, qui va courir ce trail. Donc, si on avait su, on serait allé avec lui tout Radio BLV.
Mais c'est pas perdu.
Il n'est pas trop tard. Exactement.
Ah, mince.
Il n'est pas trop tard.
Je sens ton énergie. Ouais.
Alors, voilà, les inscriptions, c'est jusqu'à demain midi. Jusqu'à demain midi.
Ok, donc Pierrick, tu nous entends, on va venir avec toi.
Et je trouve ça sympa de récompenser les déguisements ou ce genre de choses. Enfin, par exemple, moi qui je suis sûre de ne pas remporter la première place, donc je me dis peut-être que si je mise tout sur mon déguisement, eh bien, ça peut marcher. Chiche, le rendez-vous est pris. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle édition et toutes les prochaines?
On espère que ça sera un succès populaire, on espère que les gens vont apprécier ce parcours. Le parcours, en fait, il n'a pas l'air comme ça quand on le regarde sur le papier, mais il y a beaucoup de nouveautés. Donc, il va y avoir des découvertes pour certains, même des gens qui connaissent bien la ville vont probablement découvrir des rues ou des ruelles qu'ils n'avaient jamais empruntées. Donc, l'idée, c'est de faire un petit peu de tourisme aussi à travers ce circuit-là. C'est vraiment les zones les plus sympas de Valence qu'on va traverser. Donc, on espère que les gens vont aimer, vont apprécier, qu'ils vont passer un bon moment convivial et qu'ils n'auront qu'une envie, c'est de revenir l'année d'après.
Eh bien, merci beaucoup Joseph pour toutes ces précisions. On se retrouve donc demain à 19h30 au Champ de Mars pour 8,5 km de sudation, mais de sudation conviviale.
Et un déguisement.
Winter Shop à Valence. Winter Shop, c'est quoi? Eh bien, c'est une trentaine d'exposants créateurs réunis dans la salle des Clercs pour la 12e édition. Alors, c'est du vendredi 16 au dimanche 18 décembre, de 10h à 19h, à la salle des Clercs à Valence.
Atelier truffe de Noël à la Cité du Chocolat à partir de 6 ans et de dimanche jusqu'au 31 décembre, ou bien bûche roulée vanille et chocolat. Là, c'est 2 heures hein, et sans enfants, de ce lundi jusqu'au 24 décembre. Bien sûr, vous cherchez sur Internet pour les renseignements.
Fanfare, magie, spectacle burlesque à la colline. Alors, l'association culturelle à Montoison avec et pour thème les enfants et les étoiles. C'est toute la journée. Il y a des crêpes, des buvettes, des jeux en bois. C'est dimanche 18 dès 15h, samedi 18, pardon, dès 15h et dimanche 19 dès midi à la colline à Montoison.
Et à la réserve à Valence ce samedi, qu'est-ce qu'il y a, Letty?
Il y a une soirée Chill and Gwyn.
Et oui, une soirée conviviale lesbienne soutenue par les associations Titane et Valence Diversité. Entrée libre, mais bien sûr, il faudra payer ses boissons. Ainsi se termine cette locale du jeudi 15 décembre et c'est ma dernière locale avec Émilie. Je suis triste, Émilie, de ne plus le faire avec toi. J'aimais bien. Restez à l'écoute de Radio BLV. À 13h, vous retrouvez Ars Materia. À 17h, la rediffusion de notre magazine Avec ou sans sucre. À 18h, vous pouvez réécouter cette locale ou la faire réécouter à vos adhérents, n'est-ce pas, Joseph? Et à 20h15 ce soir, la rediffusion de La Route du Blues.
Et si vous voulez partager vos infos ou venir dans la locale, vous pouvez nous écrire à agenda@radioblv.com.
Et si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la retrouver ainsi que toutes les autres sur notre site internet radioblv.com. Vous pouvez suivre nos actualités, nous retrouver sur Facebook et Instagram parce qu'on est vachement moderne.
Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à prendre votre adhésion Radio BLV. Ça coûte 5 petits euros seulement. Alors vous pouvez le faire sur notre site directement radioblv.com. Ça nous aide beaucoup. Merci pour votre écoute. On vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. La locale vous souhaite de belles vacances de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine.
Bonnes vacances. Salut.
Salut.